Césure. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Césure de mai. J'ai le plaisir d'être toujours avec Bastien Blanchard. Salut Bastien.
Salut Olivier.
Aujourd'hui, un beau programme avec un invité, Mathias Ernst, qui va venir nous parler d'un projet de tango qu'il a, mais aussi de musique à l'école. Ça nous a fait réagir avec l'invité qu'on avait eu, Verena Lopez, il y a 2 mois.
Exactement.
Et ensuite, voilà, ce sera la fin.
Nous parlerons aussi, je vais faire un reportage sur une pièce qui se jouera à l'Étincelle, à la Maison de Quartier de la Jonction. Nous parlerons également un peu de théâtre biographique. Mais avant tout, l'agenda, Olivier, qu'est-ce qu'on va voir ce mois-ci ?
Alors, c'est un petit peu diffus, il y a beaucoup de choses assez différentes. Le sempiternel Vincent Thévenin.
Ah, le célèbre, notre premier invité
le plus fidèle. Notre premier invité le plus fidèle, qui nous écrit à chaque fois, qui donne en ciné-concert le Bossu de Notre-Dame à l'orgue. Donc, il va le jouer à l'orgue au temple de Cran près Cellini. Le Bossu de Notre-Dame en ciné-concert, le dimanche 6 mai à 17h. Je pense que ça peut être une expérience assez sympathique à voir. Et puis, c'est sûrement, évidemment, toujours très bien joué, comme il nous a habitués à le faire. Ensuite, le 12 mai 2018 à 20h30, au cave de Marignac, l'ensemble Tango Indigo donnera un concert, mais on vous en parlera car c'est le projet de notre invité Mathias Ernst. Le 29 mai à 20h, à la salle du théâtre de Perlis-Sertoux, West Side Story, il est à Genève, ce dont on vous avait parlé il y a 2 mois. Donc le projet, un quatuor de clarinette qui joue les danses symphoniques de West Side Story avec un récitant qui va se mettre dans la peau de l'officier Kropke pour raconter l'histoire un peu comme une enquête policière. À Berne, c'était déjà une réussite. Et puis maintenant, le 29 mai à Perlis, à 20h, West Side Story. Ensuite, pour un peu refaire toujours la réminiscence des anciennes émissions, du 1er juin au 17 juin, je le dis, c'est un peu tôt, mais bon, il faut prendre les billets en avance, oui. Il y a Don Giovanni, Don Juan, l'opéra de Mozart, qui a l'opéra des Nations joué par l'OSR, donc peut-être aller sur leur site pour voir quelle place prendre, quelle date, mais Don Giovanni, pour vous rappeler aussi de ce dont vous avez parlé. Mais surtout, et j'y insiste, je ne peux pas annoncer évidemment spécifiquement cela, mais allez sur les sites des hautes écoles de musique, c'est valable pour tous les cantons, Vaud, Genève, Berne, le Valais, pour tous les diplômes de soliste, les diplômes de concert, les bachelors, les masters, qui sont que des concerts gratuits d'étudiants professionnels, de jeunes professionnels au top niveau. Donc allez sur le site des hautes écoles de musique romande et bernoise et vous verrez qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les instruments. Mais du côté théâtre.
Alors ce que je vous propose, 3 spectacles ce mois-ci. Le premier, Variation énigmatique de Eric Emmanuel Schmidt par la compagnie Cocotte, mis en scène par Charlotte Filou avec Antoine Courvoisier et votre serviteur. 2 dates pour le mois de mai, le vendredi 4 mai à Meignier à la Petite Touvière et le samedi 26 mai à la salle communale de Satigny. C'est une rencontre insolite entre un prix Nobel, Abel Snorko, de littérature et un journaliste, Eric Larsen, un entretien qui se transforme vite en un jeu de la vérité cruelle et sinueuse. Pour réserver, c'est sur compagniecocotte@gmail.com. Voilà, un autre spectacle du 5 au 16 mai au théâtre de l'Alchimique, Le rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski, mis en scène et interprété par Jacques Médère, célèbre acteur genevois. Si vous ne voyez pas qui c'est, sa voix va sans doute vous dire quelque chose. Un homme à l'esprit suicidaire rentre chez lui et s'endort. Il rêve alors et découvre la dimension de la vraie vie à côté de laquelle nous passons.
Oui.
Voilà, au théâtre l'Alchimique. Et pour finir, la compagnie Lamarelle présente Les fleurs de soleil de Simon Wiesenthal du 23 au 26 mai au temple de Plan-les-Ouates dans le cadre de Temple aux Arts. Une mise en scène de Miguel Fernandez avec Mathieu Fernandez, Jérôme Cyr et Séverin Bussy. Voilà, donc pour l'histoire, c'est un roman, Les fleurs de soleil de Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal qui est un juif emprisonné dans un camp de travail forcé et il est appelé au chevet d'un SS en train de mourir de ses blessures et ce jeune officier SS se torturait au souvenir de la mort violente qu'il avait contribué à infliger un groupe de familles juives et au seuil de la mort, sa conscience lui faisait reproche d'avoir commis une telle atrocité. Il éprouvait le besoin de se confesser à un juif, quel qu'il soit, et c'est Simon Wiesenthal.
Voilà, bah justement, Simon Wiesenthal, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est ce célèbre chasseur de nazis qui, durant tout le XXe siècle, s'est fait connaître pour ses histoires rocambolesques. Et donc là, c'est une adaptation de son livre.
Voilà, au théâtre.
Bah, écoute, parfait, je voulais juste revenir sur quelque chose.
Oui.
Le théâtre de l'Alchimique, je crois qu'on peut quand même saluer une belle saison et une grosse saison.
Le théâtre de l'Alchimique, ils ont une belle saison, effectivement. Plusieurs spectacles que je suis allé voir et que nous sommes allés voir.
Processus Kafka, t'en parlais le mois passé, il n'était pas encore passé, donc tu y es allé.
J'y suis allé voir Processus Kafka, c'était un gros spectacle.
Ouais.
Assez volumineux, on va dire. Mais on n'a pas parlé aussi de Hang Up, qui est aussi passé à
Chimique,
qui est extraordinaire.
On a allé voir les deux, des gens pendus, pendant une heure, pendus à des tringles, en fait, à des cintres, qui parlent de choses absurdes. C'est extraordinaire.
L'Alchimique a une très belle saison.
Mais c'est tous ces théâtres qui bénéficient aussi de la rénovation du théâtre de Carouge. Il y a eu des retombées de public sur ces petits théâtres un peu annexes, qui maintenant, du coup, ont des saisons extraordinaires. Ouais.
Passons maintenant, si vous le voulez bien, aux œuvres biographiques.
Voilà, donc à la rubrique les œuvres biographiques, on ne vous présente pas d'œuvres ce mois-ci, on ne vous parle pas de cinéma comme le mois passé, mais Bastien va vous parler des œuvres biographiques.
Alors, nous parlons ici, aujourd'hui, d'une œuvre ou d'une pièce de théâtre qui se base sur l'histoire, qui raconte la vie d'une personne. Au cinéma, c'est très connu. C'est ce qu'on appelle le biopic. Et qui sont très connus, il y en a beaucoup, vous en avez sûrement vu certains. Par exemple, sur Piaf, Gainsbourg, Claude François, ou Margaret Thatcher, Mandela et j'en passe, et des meilleurs. Olivier, un biopic peut-être, sur James Brown par exemple.
Ah oui, le film, oui.
Voilà, donc au cinéma ça se fait beaucoup. Mais alors, qu'en est-il au théâtre? Je me suis posé la question. Et alors, naïvement, je me suis dit, mais il y en a beaucoup au théâtre, des biopics. Par exemple, William Shakespeare, le célèbre, qui a écrit plusieurs pièces sur des rois célèbres tels que Richard II, Richard III, Henri IV, Henri V, Henri VI, etc., etc. Mais est-ce que c'est vraiment du théâtre biographique? C'est ce que je me suis demandé. Et en cherchant un peu, eh bien non, il s'agit plutôt de théâtre historique. Par exemple, dans la pièce Richard III, les événements écrits par Shakespeare ne correspondent pas toujours à la vérité historique. En réalité, Shakespeare utilise les figures célèbres, la figure de Richard III ici, pour raconter la soif de pouvoir, l'ascension et la chute d'un tyran. Mais alors, il faut dire que le terme théâtre biographique est déjà problématique de base, car une biographie suppose une relation au temps que le théâtre peut difficilement offrir, puisque une vie ne rentre pas
oui, bien sûr.
Sur une scène de théâtre.
Comme pour les films, si on veut bien.
Voilà, donc par rapport au cinéma, le théâtre est beaucoup plus embêté quand il faut changer de temps, d'espace, etc. En général, on fait des choix et on découpe l'action en tableaux, ce que faisait Brecht aussi. Ah, mais là aussi, il y a un problème, c'est qu'il faut faire des choix. Il faut choisir quel moment on montre ou pas de la vie de quelqu'un. Alors, si on veut raconter toute une vie en 1h30, on sélectionne les moments significatifs forcément de la vie du protagoniste, au risque de perdre de vue la complexité même de la vie de ce protagoniste. Ainsi, la plupart du temps, on choisira un moment particulier, une tranche de vie qui soutient au mieux le propos de la pièce. Pour les rois, en général, c'est l'ascension du pouvoir ou la chute. Voilà, c'est qu'on va sélectionner un petit bout d'une vie pour raconter quelque chose.
Le bout le plus théâtral, justement.
Voilà, c'est ça, le bout le plus intéressant ou ce qu'on a envie de raconter. Mais avant de poursuivre, je vous propose d'écouter un morceau de musique.
Alors oui, c'est un peu sans transition. Je vous propose un morceau de Karl Amadeus Hartmann, un compositeur allemand qui a vécu au XXe siècle, interprété par l'Orchestre symphonique de Bamberg. Donc là, il s'agit d'un extrait du premier mouvement de sa symphonie Essai d'un Requiem. Et justement, alors là, c'est plutôt une symphonie qui est autobiographique, c'est-à-dire que je vous lis les premières paroles du poème que vous entendrez. « Je suis assis et contemple toutes les plaies du monde, et sur toutes les tribulations et la honte, je les vois. » Le labeur de la bataille, la peste, la tyrannie, les martyrs et les prisonniers, je les regarde, etc. etc. Donc ça, c'était écrit en 1935, alors que Hitler était arrivé au pouvoir. Et ce compositeur qui n'avait pas envie de partir d'Allemagne, parce qu'il n'était pas, il était en rien nazi, pas du tout, au contraire, mais il ne voulait pas quitter son pays, c'était son pays, il a utilisé un poème de Walt Whitman, un célèbre poète américain, pour parler en sa voix. Et notamment, j'ai remarqué, car j'avais fait mon travail de bachelor dessus, que toutes les notes de la mélodie, donc les 12 demi-tons qui existent dans la gamme traditionnelle, il n'y en a que 11 et la seule qui est manquante, c'est le H, le Si, qu'on pourrait soit interpréter par le H de Hartmann, qui se retire lui-même du monde parce qu'il contemple toute cette dévastation, ou alors éventuellement le H de Hitler, mais ça, ça semblait moins évident. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses un peu plus cachées peut-être dans la musique. Donc je vous propose Karl Amadeus Hartmann, premier mouvement de sa symphonie, Essai d'un Requiem.
Bedrängnis und Schmach. Ich sehe die Mühsal der Schlacht, Pestilenz, Tyrannei, Zimmertyrann und Gefangene. Ich beobachte die Geringschätzung und Erniedrigung, die der Armen vom Hochmütigen zu erleiden haben. Auf Allgemeinheit und Qual ohne Ende schau ich sitzend hin. Siehe und höre.
Voilà. Fin de ce Hartmann. Donc je continue avec mon théâtre biologique. Mon théâtre biologique, biographique, pardon. Ça y est, je dis comment ça. Non, voilà.
C'est comme la cuisine moléculaire, c'est ça. Un concept.
Non, alors pour revenir à ce que je disais, on choisit donc toujours un passage significatif de la vie de quelqu'un. Mine de rien, on s'attache toujours aux trois unités théâtrales que sont Olivier.
Le lieu, le temps et l'espace.
Le lieu et l'espace étant le même, le lieu, le temps et l'action.
Et l'action.
Pas mal. Mais alors, si l'unité de temps et de lieu tend quelque peu à disparaître, on essaye de garder toujours l'unité d'action, qui est à savoir de garder le même objectif tout au long de la pièce. Petite parenthèse dramaturgique, petit cours dramaturgique, très simple, une histoire pour être une histoire digne d'intérêt contient presque toujours quelques éléments indispensables au récit. Le premier est l'élément déclencheur, une perturbation dans la vie du protagoniste qui va engendrer un objectif qui sera le même tout au long de la pièce, puis des obstacles que l'auteur va mettre crescendo sur le chemin du protagoniste. Il faut que l'objectif soit assez difficile à atteindre, mais atteignable tout de même. Puis, pour finir, une résolution, qu'elle soit positive ou négative, soit le protagoniste réussit, soit il échoue ou abandonne clairement. Les obstacles peuvent être internes, externes, externes d'origine interne. Par exemple, petit exemple, un protagoniste part d'un point A pour aller à un point B. Simple, voilà, son objectif c'est d'aller au point B. Il peut avoir des obstacles comme externe un mur qu'il doit franchir ou interne la peur. Ou alors, encore plus intéressant, externe d'origine interne, qu'il ne retrouve plus le point B parce qu'il a perdu la carte, parce qu'il était en l'air, voilà, par exemple.
Bon, il y a ceux qui craquent complètement, genre faire un char avec des dragons serpents qui poussent, voilà, un corps démantelé.
Je vous donne un petit exemple avec ce que je viens de vous dire. Roméo et Juliette, le célèbre dont on parle souvent. L'élément déclencheur, ils se voient et tombent amoureux l'un de l'autre. Objectif, s'aimer en toute liberté. Les obstacles, et pas des moindres, le premier, c'est qu'ils font partie de familles rivales. Ensuite, par vengeance, Roméo tue le cousin de Juliette, ce qui met un peu de l'eau dans le gaz. Ensuite, Roméo est banni de Vérone, donc pour s'aimer en toute liberté, c'est plus compliqué. Les parents de Juliette vont la marier avec un autre. Juliette feint la mort grâce à une potion et le messager qui devait prévenir Roméo de la supercherie n'a pas pu lui délivrer le message à cause de la peste. Roméo croit Juliette morte. Il se suicide, Juliette se réveille aux côtés de Roméo et elle se suicide aussi. Résolution plutôt négative, ils ne peuvent pas s'aimer vivants. Deuxième résolution un peu plus positive, les deux familles se réconcilient. Donc si l'objectif est trop simple, il n'y a pas d'obstacle et ça rendrait l'histoire sans intérêt. Roméo et Juliette se rencontrent, ils tombent amoureux. S'il n'y a pas tous ces obstacles, l'histoire est un peu sans aucun intérêt.
Bon, pourtant sur Netflix, ça marche comme ça. Hein.
Oui. C'est pas faux. Mais à l'époque de Shakespeare, c'était autre chose. Ainsi, dans un récit biographique, on va privilégier les moments de vie où les protagonistes ont un objectif précis. Par exemple, le pouvoir, la gloire, la célébrité, l'amour et j'en passe. Un autre problème avec le théâtre biographique, c'est la vie. Dans une biographie, il manque forcément des dialogues, d'une parole vivante. C'est donc à l'auteur d'inventer les moments de la vie de ses personnages. Il lui faut aussi réinventer une chronologie, parce que tout n'est pas important et certains événements ont lieu à des mois, voire des années d'écart. Mais paradoxalement, c'est une source de liberté pour l'auteur de prendre tous ces éléments et d'en faire quelque chose qui tienne la route. Le théâtre permet aussi de faire se rencontrer sur un même plan des êtres fictifs, des êtres réels, et pourquoi pas des êtres surnaturels, ou encore de mettre en scène en même temps un personnage à deux âges différents, voilà, en utilisant des traitements. Dans cette immense liberté de représentation qu'autorise la scène réside tout le charme du théâtre biographique. Mais alors pourquoi je vous parle de ça ce mois-ci ? Parce qu'au théâtre de Carouge, vous pourrez aller voir Le rêve de Vladimir, écrit et mis en scène par Dominique Ziegler, du 1er au 27 mai au théâtre de Carouge, donc dans la petite salle, la salle Gérard Carra. Vous y découvrirez la montée au pouvoir de Lénine jusqu'à sa mort, ainsi que ses passages par Genève. C'est un spectacle très intéressant, didactique, où l'on apprend beaucoup. Il est passé en début d'année à l'Alchimique, on en parle encore. Et il repasse donc à Carouge. Ne ratez pas cette pièce, on apprend énormément de choses et c'est un magnifique exemple de théâtre biographique.
Ok.
Voilà.
Alors moi, pour vous proposer un dernier extrait avant de passer au reportage que tu allais faire, Bastien.
Que je me suis téléporté.
De nouveau, une œuvre un peu plus autobiographique, peut-être moins évidente cette fois-ci, donc de Benjamin Britten. Il s'agit de son opéra Peter Grimes. Et Peter Grimes, c'est l'histoire d'un pêcheur qui a perdu son mousse, son matelot en mer et qui revient au village. Et en fait, la haine des villageois et puis en fait, toute la médisance sur les histoires qui auraient pu se passer font qu'il finira... il finira lynché par le village et il partira en mer pour mourir. Et si on veut bien, c'est maintenant c'est reconnu, je crois, donc, que cet opéra est une sorte d'image de Benjamin Britten lui-même, qui était homosexuel, d'ailleurs le premier homosexuel anobli par la reine, avec son mari qui était, enfin Peter, son mari, son Peter compagnon Pease. Qui était Peter Pease, un grand ténor. Et donc c'est reconnu que ce matelot qui a affaire aux médisances du village et qui doit finir par partir en exil pour mourir est une sorte de métaphore de Benjamin Britten lui-même. Donc je vous propose de cet opéra l'acte 1 interprété par le Met et conduit par Donald Ronicles.
Et après on se retrouve avec la compagnie Bleu Café. Voilà, je suis donc au théâtre du Galpon avec la compagnie
Bleu Café, où cette compagnie répète en ce moment le spectacle Restez Groupé qui se jouera à l'Étincelle. Alors je suis avec Tara Macris et Julie Meyer. Salut.
Salut.
Première question, alors parlez-nous un peu de ce projet, Restez Groupé. Je ne sais pas laquelle des deux veut commencer.
Alors, j'ai lancé le projet parce que, c'est par l'expérience, une petite expérience dans l'enseignement public en primaire. Je fais beaucoup de remplacements, voilà. Et donc, par l'expérience de ça, j'ai pu observer, puis j'ai entendu énormément de témoignages de la part des enseignants, des acteurs de terrain de l'instruction publique, des témoignages sur le malaise et la crainte qui est en train de s'installer. Dans ce milieu-là depuis, on va dire, une dizaine d'années. Un malaise qui vient d'un conflit d'intérêts pour les acteurs de terrain de l'instruction publique. Ils sont complètement pris dans ce conflit d'intérêts entre, d'un côté, leur mission d'élever les esprits, ouvrir les consciences, semer le sens de la responsabilité chez les enfants, dont ils ont la charge, en fait. Et puis, d'un autre côté, une surveillance hyper rigoureuse des autorités supérieures, dont personne ne connaît le visage, et qui, aujourd'hui, les enjoignent à collaborer dans un sens complètement autre de leur mission, en fait. Et voilà, donc ce spectacle se veut dénonciateur de ce système, qui est le suivant. On va dire que sous le prétexte de bâtir un environnement toujours plus sûr pour les enfants et puis de répondre à la demande publique toujours plus exigeante d'améliorer le niveau général, les institutions génèrent plutôt un système qui va dans un sens de, comment dire, un système toujours plus fragile et surtout un système hyper aseptisé, sécuritaire de l'extrême, où on implique un principe de précaution toujours plus rigide. Et du coup, ce sont les enfants qui sont victimes de ce système-là. Il est fragile parce que, voilà, principe de précaution appliqué, et puis aussi parce que, comme ça se veut toujours plus sûr, plus exigeant, plus performant, plus, eh bien, on est dans un système de plus en plus chamboulé, des chamboulements incessants qui fragilisent tout ça, quoi. Voilà, donc du coup, pour parler de ça, on a fait une commande à une auteure, Hélène Sapin, qui, par chance magistrale, est en fait enseignante depuis de très nombreuses années, elle aussi, et voilà, qui a accepté d'écrire pour nous un texte qu'elle a donc appelé Rester groupé, farce tragique, parce qu'il s'agit d'une farce grinçante, comme elle l'entend, où on a affaire à une espèce de réalité tordue qui tire vers le burlesque pour en extirper l'absurde d'une réalité très concrète, en fait, qui existe, qui est pourtant méconnue hors de la sphère de l'instruction publique, mais qui dans le milieu est un sujet principal de discussion.
Ouais. Donc Hélène Sapin, comme tu l'as dit, qui a écrit ce texte. Pourquoi demander à une auteure d'écrire là-dessus ? Il n'y a aucun texte qui parle de ça dans le répertoire, où c'était important de créer justement un spectacle là-dessus, mais vraiment de créer de A à Z ?
Alors, pour moi, c'était vraiment essentiel de partir sur des données très concrète. Alors, il se peut que le texte soit axé très local. Ça, j'en suis complètement consciente. C'est-à-dire que, moi, mon expérience de l'enseignement, les témoignages que j'ai entendus, je suis moi-même fille d'enseignante, ça se passe à Genève. Et puis, je pense que le sujet de cette pièce s'étend quand même au-delà de Genève, évidemment, mais c'est vrai que les références sont très locales. pour moi, c'était important de demander à une auteure dramatique, bon, déjà plutôt que de l'écrire moi-même, parce que je ne sais pas du tout si je serais capable d'écrire un texte comme ça, mais plutôt que de prendre un texte déjà existant, j'avais envie de dénoncer, enfin de mettre en lumière plutôt, oui, allez, allons-y, dénoncer un système qui est réel, qui existe. Et pour ça, il fallait s'appuyer sur des données de la vraie vie, quoi, de la vie crasse de tous les jours et de ces dernières années. Donc voilà, c'était, la difficulté était là. On ne voulait pas tomber dans quelque chose de didactique qui ne fait que reproduire des discours politiques de ça, ça ne va pas, et ça, ça ne va pas, et on veut du changement. Donc c'était essentiel justement d'avoir affaire à une auteure dramatique qui pouvait nous produire un produit artistique, on va dire, mais en même temps, le sujet n'est pas, enfin, je voulais pas rentrer dans un sujet tellement vaste que ça pouvait parler de tout et n'importe quoi, le système pédagogique en général, l'aspect dramatique complètement convenu et attendu que c'est terrible de demander toujours plus de performance aux enfants, ça, bon voilà, on le sait, on en parle beaucoup, mais voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était de se baser vraiment sur des faits extrêmement concrets et absurdes, les injonctions, les directives sous lesquelles croulent les enseignants et tous les autres acteurs de terrain de l'instruction publique, qui les empêchent justement de travailler dans le sens qui les entrave, on va dire plutôt, pour travailler dans le sens qui est attendu d'eux, quoi.
Du coup, Hélène Sapin, elle a vu des répétitions, elle a assisté aux répétitions ou pas du tout? Elle vous a laissé de votre côté?
Alors pour l'instant, elle n'a assisté à aucune répétition. Je ne sais pas si ça va arriver.
Je crois que c'était aussi sa volonté pour elle d'écrire quelque chose et puis après de nous laisser libres de son œuvre. Elle avait pas tellement envie de... C'est pas une écriture de plateau dans le sens où on n'a pas fait des allers-retours vraiment avec elle. On lui a donné un peu des outils de base dans lesquels on voulait que la pièce aille dans un certain sens. Et après, elle nous a proposé un texte qui était super. Et après, c'est à nous maintenant aussi de s'en approprier, de se l'approprier et puis de pouvoir aussi se libérer de l'auteur et puis de pouvoir aussi un peu s'amuser avec ce texte et de le prendre avec notre vision.
Ok, alors je me fais un peu l'avocat du diable sur votre sujet, mais en Suisse, on est bien loti, non, au niveau de l'éducation. Qu'est-ce qu'il faudrait changer?
Alors, oui, c'est ça justement le problème. C'est qu'en Suisse, on est bien loti. Hein, on est dans un pays bien nordique où le système social, il est bien installé. Et puis finalement, en fait, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, en fait, non. C'est-à-dire que c'est toujours ça le problème. C'est-à-dire on est... finalement, il y a quand même dans ce domaine-là, même dans le domaine public, il y a quand même cette espèce d'esprit de compétition qu'on peut retrouver aussi dans toutes sortes d'autres carrément marchés, quoi. Voilà. Alors, on n'est pas dans un marché au niveau de l'instruction publique, mais il y a certaines choses qui s'y apparentent. On a affaire à des politiques qui veulent toujours laisser leur petite marque et apporter leur petit plus justement dans le système parce que on se targue d'être un super pays avec un système éducatif hyper performant. Mais n'empêche qu'il faut toujours faire mieux que les voisins et puis qu'il y a ces statistiques de quels sont les meilleurs élèves, dans quel pays, dans machin. Bref, et en fait, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Ah, mais si je rentre trop dans les détails, je vous raconte toute l'histoire.
Oh, rapidement.
Rapidement. Alors, bon, là, je vais rentrer dans un truc hyper spécifique, mais moi, l'anecdote que j'aime bien, c'est que... il faut déjà savoir que chaque année, dans toutes les écoles, les enseignants reçoivent des nouvelles directives, des nouvelles interdictions, des nouveaux principes sécuritaires à appliquer. Un truc hyper flippant pour moi, hyper révélateur et qui pourtant est très spécifique, c'est l'interdiction des boules de neige. Voilà. Dans certaines écoles, dans pas mal d'écoles, maintenant, les boules de neige sont interdites parce qu'on va se blesser, parce qu'on va se faire du mal. Alors, il faudrait éviter que les enfants n'ont pas le droit de courir sous la pluie. Dans certaines écoles, ils n'ont pas le droit de courir dans l'herbe, ils n'ont pas le droit de faire ci, de faire ça, de machin. Alors, ça, c'est pas très grave, hein, a priori. Les boules de neige, on peut s'en passer. Ça va pas trop perturber le développement de l'enfance. Mais pour moi, c'est symptomatique de quelque chose de beaucoup plus grand, qui est justement cette prévention, cette précaution pour à tout prix éviter le risque, quoi. Donc, si vous voyez la quantité de directives, de lettres que les enseignants reçoivent, qui leur interdisent toujours de nouvelles choses, voilà, du style. Les paradoxes en sortie de classe, la sécurité appliquée à tout prix, parce que toujours le flip qu'il pourrait se passer quelque chose, que les parents vont se retourner contre vous, et puis là, c'est le blâme. Et donc, d'un côté, on doit à tout prix faire plein de choses avec les enfants, les aider à se développer, tout ça. Mais d'un autre côté, il ne faut pas les toucher. Il faut demander l'autorisation avant de leur donner quoi que ce soit. Si jamais ils se blessent, il ne faut pas les emmener à l'hôpital sans l'autorisation des parents. Mais si les parents ne répondent pas au téléphone, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le laisse sur place? Mais non, on ne peut pas non plus, parce que c'est contre la loi, ça aussi. Enfin bon, bref, voilà. Mais il y a des paradoxes immenses entre la réalité, genre le concret, le terrain, et puis les injonctions et comment ça devrait se passer en théorie. Et pour moi, le problème principal au niveau du changement qu'il faudrait espérer, vraiment, là c'est plus large, c'est que les pédagogues, les didacticiens qui sont au pouvoir, ceux qui décident en fait de l'organisation de l'instruction publique, ce sont des gens qui, pour beaucoup, ne sont pas et même n'ont jamais été sur le terrain. Ils n'ont jamais été enseignants, ils n'ont jamais été en contact avec des enfants. Et ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est eux qui décident. Et ils n'en ont aucune idée. Et il y a un décalage, mais complètement... enfin, je ne sais pas, moi ça me paraît complètement aberrant.
Dernière question rapidement. En regardant la distribution de votre pièce, que des femmes. C'est un choix ou c'est un hasard de la distribution?
Ah, mais c'est un choix, c'est complètement politique. Non, alors pas du tout. C'est un hasard, je crois. Je sais pas, j'avoue ne pas m'être trop posé la question. Il y avait des gens avec qui j'avais envie de travailler et ces gens se sont trouvés être des femmes. Voilà.
C'est une bonne réponse. On arrive bientôt à la fin de ce reportage. Dernières infos, alors ça se joue quand, où, comment on réserve tout ça?
Alors, ça se joue du 16 au 19 mai à l'Étincelle, la salle de spectacle de la maison du quartier de la Jonction. Pour les réservations, ça se passe au 022 545 20 20. Avec des horaires de réponse assez, assez serrés. Je crois que c'est du 16-18, les jours ouvrables.
Alors, sauf erreur, je crois que vous pouvez laisser un message pour la maison de quartier.
Génial, il y a du changement. Voilà, j'ai eu d'autres infos? À quelle heure? C'est à 20h, tout à fait. Tous les soirs à 20h. Ça ne se joue que 4 fois, malheureusement. Donc voilà.
Parfait, merci beaucoup, on se réjouit, on viendra voir ça. Merci beaucoup,
merci.
Bon travail. Thank you.
Ruta 7 de Raúl Ledesma et avec l'ensemble Indigo, Tango Indigo, dont j'ai le plaisir de recevoir Mathias Ernst.
Bonjour.
Salut Mathias, qui est clarinettiste. Donc le Tango Indigo, Louis Semenyuk au piano, Marie-Jeanne Sunier au violon, Jérémy Vanro au bandoneon et Mathias Ernst toi-même, là, à la clarinette basse en l'occurrence. Donc ça me fait très plaisir de te recevoir. Pour nos auditeurs, quand on côtoie Mathias Ernst, je crois que ça laisse personne indifférent. Et c'est une personnalité très attachante qui a plusieurs facettes. En un adjectif, comment tu te décrirais ? Attention, il y a
la question à 1000 francs. On s'accroche. je dirais ouvert.
Ouvert, oui, ça, c'est ça. Ouais. C'est...
Hyperactif.
Hyperactif, ouais, c'est peut-être encore plus vrai. Ouais.
Encore plus vrai, je pense.
Ouais. C'est entre tes... ton travail de professeur, les ensembles que tu mènes, tous les projets avec les enfants, puis ta vie de famille aussi, tu as beaucoup à faire. Donc peut-être on va un peu revenir en arrière pour voir le Mathias Ernst bébé. Non. Donc quand tu as commencé la clarinette, maintenant tu as un produit GRTA, quoi, Genève Région Terre Avenir.
Absolument, ouais, labellisé.
Labellisé, Stempel, PAM. Il y a quelque chose qui a changé pour toi le cours des choses, c'est un orchestre d'adolescents. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, effectivement, c'était un peu la rencontre avec les musiciens de l'époque, donc de l'orchestre du collège plus précisément, ouais. Qui m'ont en fait poussé dans cette direction. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité à partir dans la musique suite à ma maturité. Mais c'est vrai que l'expérience musicale était tellement forte que ça m'a encouragé à poursuivre les études musicales. Et du coup, je me suis donné à fond, corps et âme, pour réussir le conservatoire. Et ça a marché. Du coup, j'ai pu me lancer dans une carrière musicale. Mais ce n'était pas forcément mon idée de base. En fait, je suis issu d'un milieu artistique. Mes parents sont artistes peintres. Et du coup, moi, je pensais plutôt aux beaux-arts, ou ce genre de choses. Et finalement, j'ai bifurqué sur la musique. Ce n'est pas très éloigné, on est d'accord. Je me suis vraiment engagé dans la voie musicale.
J'imagine un drame familial de lâcher le pinceau pour la clarinette.
C'est un peu ça, exactement.
Ah ouais.
Non, quand même pas. Non.
Maintenant que l'orchestre du collège, tu es un exemple à suivre pour tes élèves. C'est-à-dire que tu montres, en faisant les choses progressivement, on arrive à devenir professionnel. Donc tu as suivi un peu la voie classique, si on veut bien. Tu étais dans la classe de Thomas Friedli à Genève.
Exactement, le feu Thomas Friedli qui était absolument exceptionnel et qui avait une sorte de vision. Il faisait le choix des candidats pour la haute école d'aujourd'hui, mais le conservatoire de l'époque, et il voyait en musicien leur personnalité. Et puis moi, j'avais effectivement beaucoup de choses à apprendre et je ne me sentais pas forcément du niveau pour entrer, mais il avait ce talent de vraiment détecter des potentialités d'artistique et donc notamment aussi musicales. Ouais. Et il m'a fait confiance et ça, voilà, on a bossé pendant presque 7 ans ensemble. C'est quelque chose de fou.
Ouais. Et puis c'est vrai que dans les dernières émissions, on a eu pas mal de gens de tout milieu, des étudiants, des grands professionnels. Est-ce que tu penses que maintenant c'est plus difficile d'être, de devenir musicien professionnel, ou peut-être pas plus difficile techniquement, mais je veux dire en soi.
Ah oui, alors je pense qu'effectivement le milieu est devenu très très serré, c'est que le marché du travail est très très petit finalement, il y a pas beaucoup d'ouverture. C'est un niveau aussi, je dirais, c'est une question d'environnement aussi politique. On n'est pas que dans l'artistique pur. Et c'est vrai que tout ce qui est culturel à l'heure d'aujourd'hui n'est pas forcément favorisé, donc ce qui fait qu'on a aussi pas forcément on stimule pas forcément les musiciens ou la musique dans le bon sens forcément. Ah ouais. Mais il y a une je dirais que ça devient difficile, une concurrence. Bien sûr aussi plus grande qu'avant.
Ouais. International.
Et très international, bien sûr. Ouais. Et ça complexifie les rapports qu'on a aujourd'hui dans notre situation, je dirais, en Suisse et à Genève par rapport à la formation des jeunes, notamment.
Ouais, ouais. Et je pense, toi qui enseignes et qui a été donc étudiant au conservatoire, tu dois aussi voir les élèves qui ont peut-être des envies d'aller un peu plus loin et de voir un peu les confronter avec une réalité qui n'est pas celle qu'on a en Suisse. Parce qu'on met souvent le cliché russe ou chinois en avant, mais ma foi, c'est le cas.
Et c'est vrai
qu'ils sont très bons et qu'ils ont des systèmes qui fonctionnent vraiment très bien. Quoi.
Absolument. Moi, je suis plutôt partisan en fait, d'une formation d'excellence en termes d'amateurs, vraiment d'amener le plus possible vraiment de plaisir à jouer, d'engager les élèves vraiment dans un jeu qui leur soit complet et qui puisse finalement s'ouvrir et aborder toutes sortes de choses sans souci et dans un cadre qui est moins stressant que le cadre professionnel d'aujourd'hui,
je
pense.
Oui, et puis c'est pas le seul aboutissement.
Absolument. Ouais, c'est ça.
Mais bon, après on parlera forcément de musique à l'école, mais ce sera dans un deuxième temps. Mais revenons peut-être au tango avant. Donc l'ensemble Tango Indigo, que peux-tu nous en dire ?
Ah, c'est une longue gestation. En fait, c'est une histoire très ancienne. On a formé d'abord un trio de clarinette, basse, violon, piano, avec mes deux amis toujours du conservatoire, en fait. Ouais. Donc Louis, donc Semenyuk, pianiste, est venu en Suisse il y a plus de 20 ans.
Pianiste argentin, non ?
Ah, pianiste argentin, exactement. Donc en fait, quand il est venu ici, il avait une formation classique. Et c'est en étant à Genève, en étant ici en Suisse, qu'il a commencé à connaître, à découvrir le tango, qui pourtant sont ses origines. C'est paradoxal. Donc en fait il est parti pour revenir finalement dans le tango et en fait en partant de ses expériences, lui il a fait beaucoup il a participé dans beaucoup d'ensembles en tant que pianiste, il a tourné avec différents ensembles, mais on a voulu créer un petit peu un tango un peu différent, justement avec une couleur un peu nouvelle qui est celle de la clarinette basse, qui n'est pas fréquente dans le tango. Et on a réussi à s'associer à différents bandonistes et finalement on s'est allié d'amitié avec Jérémy, avec qui on est maintenant depuis 5-6 ans ensemble. Et on fait vraiment un travail vraiment approfondi avec beaucoup de projets. Ouais. Mais c'est vrai que c'était une gestation qui était un peu lente. Mais maintenant, on a trouvé vraiment notre final. Et voilà, avec des choses qui vont venir intéressantes. Mais donc, dans l'approche, ça a été... Voilà, on s'est un petit peu tâté et on a un petit peu cherché. Mais c'est vrai que la couleur de la basse, maintenant avec le bandoneon, piano et violon, crée une sorte de petite orchestra typica,
Justement, en Suisse, on le voit. Enfin, je pense que c'est plus courant dans les autres pays, mais en Suisse, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'entendre cette formation. Mais peut-être le bandoneon, en quelques mots, expliquer quel instrument c'est pour nos auditeurs.
Alors, le bandoneon, en fait, c'est un petit accordéon. C'est en fait un instrument qui est d'origine allemande, en fait, qui a été exporté en Amérique du Sud et qui est arrivé en Argentine au tout début du 20e, et ça a été en fait c'est devenu l'instrument de prédilection du tango, mais à l'origine c'est un instrument qui était construit en Europe, mais c'est un petit accordéon mais qui a un son très particulier et il y a deux systèmes, il y a un système chromatique ou diatonique, et en fait le fait notamment diatonique, et quand on souffle dans un sens ou dans l'autre, ça fait pas les mêmes sonorités,
comme
l'harmonica, tout à fait, comme l'harmonica.
Ouais, et puis justement ça m'intrigue pour un ensemble de tango suisse comme ça peut sonner plus sexy, pourtant on a entendu que c'était très bien. Est-ce que vous avez été confronté avec le monde vraiment sud-américain, une tournée, je sais pas?
Alors,
des maîtres à penser,
exactement. Donc on a pu vraiment, on est invité en fait par
que ça sent qu'il y a ça,
hein. Absolument, on est invité par un festival en Argentine en 2015 à Zarate qui est dans la banlieue de Buenos Aires, enfin plutôt la province de Buenos Aires. Et là, on a eu l'occasion de faire un concert extraordinaire. On a écouté, bien sûr, beaucoup l'ensemble du Cru, hein, et on a pu rencontrer les plus grands maîtres du tango sur place. Et c'était que Luis connaissait déjà, qu'il y avait déjà des contacts. Donc on a pu comme ça prendre notamment Nicolas Desma, dont on a joué la pièce à l'instant. Et ça, on a pu travailler avec lui. Il nous écrit des pièces à l'heure actuelle aussi. Donc il y a tout un échange qui se perpétue. Mais voilà, ça, c'est un milieu extraordinaire. Et donc là, on a pu bénéficier de conseils vraiment très, très précieux.
Ouais. Alors, réécoutons un nouveau morceau de votre dernier CD, Tango Indigo, Pedacito de Cielo. Où est-ce qu'on peut le trouver, CD ? À la FNAC, rayon Noël, bon...
Alors, au rayon Noël, c'est trop tard. Ou trop tôt, non. Il est disponible, on peut le télécharger sur toutes les plateformes, Amazon, iTunes, enfin on le trouve, voilà.
Ouais, en mettant le nom de Tango Indigo. Indigo,
tout à fait, ouais.
Donc le morceau, Pedacito de Cielo, de Franchini et Stamponi. Pedacito de Cielo, par l'ensemble Tango Indigo, avec toujours Mathias Sienz à nos côtés. Donc, vous serez en concert en mai au Cave Marignac.
Exactement, à Nancy, tout à fait.
À Nancy.
Et nous avons en fait la...
Quelle date ?
Ce sera le 12 mai.
Le 12 mai.
Le samedi 12 mai.
À 20h30.
Voilà, tout à fait. Et ce sera en fait une première parce qu'on va donc chanter, enfin on va jouer avec une chanteuse qui s'appelle Maria de la Paz, qui est une spécialiste du tango en fait. Elle a vraiment la voix du tango, elle est vraiment fantastique. Et on a décidé de collaborer avec elle. On a pu monter donc un projet. On va gentiment travailler avec elle. Et il y aura des danseurs aussi qui seront là, un couple de danseurs qui vont danser. Et on est en train de préparer justement un spectacle avec un metteur en scène qui vient de Paris, qui s'appelle Lionel Rougerie, qui sera aussi là. Donc on commencera à faire un petit peu des prémices de scène du futur spectacle. On va travailler pendant ce week-end et puis on aura l'occasion un petit peu de présenter deux, trois petites choses. Ce sera pas grand-chose, mais donc on aura déjà un avant-goût de quelques petites idées qu'on pourra mettre en place dans ce spectacle qui tournera autour justement de la relation de la femme, de l'homme, des choses qui sont moins connues dans le tango, enfin qu'on ne met pas en avant. Si on regarde des shows qui existent à l'heure actuelle de tango, c'est des danseurs, c'est Piazzolla principalement et pas tellement d'autres choses. Là, on va viser un tout petit peu un univers un peu différent où nous, on sera aussi mobile, on va aussi se déplacer. Ce ne sera pas les musiciens sur scène et puis les danseurs à côté. Donc, on va essayer de faire vraiment un spectacle sous forme de cabaret ou de numéro de cabaret, quelque chose un petit peu de particulier. Voilà, avec tout un univers, donc sur plein de musique et notamment Piazzolla évidemment. On ne peut pas l'écarter, voilà, avec des créations, des choses qu'on a faites, et notamment Louis qui a rangé quelques pièces.
Oui, qui a rangé le morceau qu'on vient d'entendre.
Notamment, on a pas cité Tiello, exactement, c'est lui qui l'a rangé. Et puis là, voilà, on aura des créations qui vont se faire. On a Nicolas Desma qui nous a envoyé des pièces. Et puis nous, on travaille aussi tous ensemble sur ces pièces-là pour apporter chacun notre point de vue. Pour créer notre univers.
C'est très bien. Donc pour le 12 mai à 20h30 au Cave Marignac. Et maintenant, il ne reste plus beaucoup de temps. On va passer quand même à un autre sujet qui nous tient à cœur, donc c'est le projet Musique à l'école qui va faire un peu le lien avec Scène Active qu'on avait vu dans le théâtre il y a deux, trois mois. Qu'est-ce que Musique à l'école, Mathias?
Alors, Musique à l'école, c'est un projet assez nouveau. Ça fait maintenant 7 ans que ça existe sur Genève, au niveau cantonal, de Genève. Ouais. En fait, Musique à l'école, c'est en fait une approche où on amène la musique auprès des enfants dans les classes primaires. C'est un projet où il y a des orchestres à cordes et des orchestres à vent. Donc moi, je suis responsable d'orchestre à vent. Et les enfants, en fait, pratiquent un instrument. On leur prête un instrument pendant 2 ans. Donc, ils pratiquent la musique en ensemble.
Gratuitement. C'est vraiment le principe.
C'est le principe du gratuit. Donc, en fait, ça prend 2 heures par semaine, 2 heures hebdomadaires pendant 2 ans, donc en 8e primaire. Et donc, les enfants apprennent tous ensemble un instrument. Donc, l'instrumentarium est bien sûr défini à l'avance. Ils ont, au début du projet, l'occasion de tout essayer. Et on fait un choix d'instruments, je dirais, en fonction de leurs envies, des instruments que j'ai à disposition. Je ne peux pas forcément mettre 15 flûtes, 2 clarinettes et 3 saxophones. Donc, ça va être un équilibre savant qu'on décide ensemble, en démocratie, je dirais. Donc, il n'y a jamais trop de soucis. Et donc, on leur prête effectivement gratuitement ces instruments pendant 2 ans. J'ai des professionnels de chaque instrument qui viennent un tout petit peu de temps à autre pour m'aider un tout petit peu dans l'apprentissage, parce que moi je suis seul à gérer donc le projet, ce qui est énorme.
J'ai eu l'occasion de venir.
Je me retrouve avec des saxophones, des flûtes, des clarinettes, des trompettes, des trombones, des tubas, des bassons. Donc c'est chaque fois des choses différentes. Il faut pouvoir un peu jongler. Mais les coachings sont très éparpillés. Mais c'est vrai que les 3/4 du temps, je suis avec eux. Mais ça marche très très bien. C'est vraiment super.
Bon, justement, ces enfants, est-ce qu'ils sont ciblés? C'est un public qui n'est pas les enfants qu'on trouve en campagne, par exemple.
Non, tout à fait. Alors, c'est donc la politique veut que. Accepter l'arrangement qu'il y a avec les cordes de côté de Tournai, mais pour les vents, on est dans les écoles en REP, donc les écoles du réseau d'éducation prioritaire, du DIP, où c'est des quartiers défavorisés où les enfants n'ont pas accès forcément à la musique, donc à la pratique musicale. Et bon, je rencontrais en général dans les classes un, deux qui font déjà de la musique, donc c'est bien, parce que ça stimule le groupe aussi, ça crée des bases solides à l'intérieur des classes. Mais donc là, c'est vrai que la grande majorité des enfants n'ont jamais fait de musique, donc en fait, c'est leur offrir l'opportunité, la possibilité d'apprendre un instrument, et puis voilà, en espérant que...
Il continue après ?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est bien difficile dans le sens qu'il y a en général. Je me retrouve à peu près à chaque fois sur un effectif de 17-20 avec un qui va ou deux qui vont continuer la musique après. Ouais. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Mais il y a eu des occasions d'élèves qui voulaient continuer et qui finalement n'ont pas été au bout de leur démarche. ça demande un investissement de la part des parents qui forcément sont pas forcément derrière à les soutenir.
Les parents peuvent être un frein un peu, entre autres.
Et puis financièrement ça coûte cher, mais il y a des aides, mais voilà, les parents n'osent pas forcément s'engager dans ces recherches. Bref, je pense qu'il y a, encore des matières à réflexion pour mobiliser les parents aussi par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants, quand ils ont l'instrument, il y a certains, c'est vraiment des révélations. Voilà, certains qui n'ont jamais fait d'instrument, ou jamais fait de musique, ils ont leur instrument en main et ça marche, mais du tonnerre de Dieu. Quoi. C'est vraiment incroyable.
Bon, bah alors moi je propose, vu qu'on n'a plus le temps de faire la question du mois, mais on peut un peu continuer sur une discussion à ce sujet. Est-ce qu'il y a des résultats tangibles en dehors de la musique? Est-ce que tu sais s'il y a des professeurs qui disent que, par exemple, en mathématiques, ou j'en sais rien, ou que le comportement général s'améliore grâce à ça?
Alors effectivement, donc au niveau des, on connaît les principes, les vertus de l'apprentissage de la musique, mais il est vrai que au niveau des, pour l'instant c'est encore un peu frais. Moi, ça fait que 4 ans que je fais ça. J'ai pas encore de retour à, disons, d'élèves ou de professeurs. Je sais qu'il y a, disons que l'avantage, il est aussi social. Hein, beaucoup, bien sûr, au niveau cognitif, ça, on sait que ça fait des choses, mais la relation du groupe en fait change relativement avec ces expériences d'orchestre, et ça amène une certaine stabilité dans les classes. Et bon, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, il y a des fois des élèves qui mettent les pieds au mur, il y a des choses qui sont difficiles à gérer. Hein. Je ne dis pas que tout est rose. Hein. Loin de là, il faut être très attentif de jamais perdre un élève, de les laisser sur la route. Il faut que tout le monde soit dans le même bateau et continue son chemin. Mais il est vrai que je dirais les apports après au niveau mathématique ou ce genre de choses, après, je sais pas.
Le comportement,
voilà. Mais ça, dans les apprentissages, je sais que ça peut aider, mais j'ai pas encore de rapport à ça.
En théâtre, Bastien, par exemple, il y a pas mal de gens qui commencent aussi pour la diction, tout simplement, ou les problèmes de timidité.
Oui, alors il y a des cours aussi de diction, justement, dans les cycles d'orientation, par exemple, au collège. Mais les problèmes qu'il y a maintenant, c'est qu'on engage de moins en moins des comédiens pour le faire, mais des profs de français. Ce qui est un peu problématique, c'est que du coup, on perd un peu ce côté vraiment artistique du métier de théâtre.
Ouais, mais je pense que peut-être pour conclure, il faut encore qu'on lance un peu un appel. Il faut garder la chose professionnelle, et puis que dans tous les domaines, les gens soient compétents pour les postes. Parce que je crois pas qu'on peut s'improviser prof de quelque chose comme ça. Et je t'ai vu donc exercer avec ces élèves, et ça fait sens. Je veux dire, c'est pas n'importe qui pourrait faire ça.
Tout à fait, que le métier de professeur n'est pas labellisé, protégé comme d'être. Donc tout le monde peut se prétendre professeur, mais effectivement, on a besoin d'avoir un professionnalisme derrière, effectivement, et une déformation. Les formations sont encore à l'état d'embryon. On est pour l'instant très peu à être formés. Je pense que c'est un projet qui a de l'avenir, qui va se développer très probablement. Donc ça permettra, espérons sur le futur, d'avoir encore plus d'ouverture et plus de rayonnement, bien sûr, ça on l'espère.
Alors sur ces belles paroles, on va conclure l'émission. Merci Mathias d'être venu, c'était un plaisir.
Et je vous remercie infiniment.
Je rappelle tangoindigo.com pour le CD et puis toutes les news et les concerts.
Voilà, n'hésitez pas à réécouter l'émission en podcast sur Radio La Fabrique et nous suivre sur Facebook.
Sur Facebook.
Sur l'émission Césure, votre émission musique et théâtre.
Alors, au mois prochain.
Au mois prochain.
Pour une petite spéciale, on ne sait pas encore, c'est possible.
Ah, ce sera juin, ce sera certainement la dernière de la saison.
Ah, ce sera peut-être une spéciale. Bon, très bien.
Allez, au mois prochain.